Radio Generation.
Et nulle part ailleurs.
Génération Soccer, bonsoir à tous. 23h minuit, c'est le débat after avec vous sur la radio Génération Soccer, celle que vous aimez ce soir. Débat after spécial 13e journée de Ligue 1. Analyse, réaction de nos chroniqueurs sur l'ensemble de cette 13e journée. On va parler France, on va parler un petit peu Europe en fin d'émission. Le quiz préparé par notre très cher Aurélien qui est là et je te salue Aurélien. Salut Aurélien.
Salut tout le monde.
Rognetto est également là. Bonsoir Rognetto.
Salut.
Aurélien, je l'ai cité évidemment. On a tellement de monde que je m'y perds. Roméo est ici. Bonsoir Roméo.
Salut. Je suis un peu choqué là. Je viens de voir la passe de Zlatan.
Ah, on te comprend, c'est un immense joueur. Dan est aux manettes, Adrien ne devrait pas tarder à arriver. Ouais, il habite à Paris, hein, donc le périph' c'est toujours un peu encombré, même à 11h du soir, hein, vous comprenez, vous nous excuserez évidemment. Exactement, ce soir, on commence pas avec ces blagues pourries, donc ce soir, tu m'avais promis de rester calme ce soir, Roméo, donc on va essayer de... Ce soir, on va parler donc du premier point obtenu par Grenoble dans cette Ligue 1 édition 2009-2010. On va parler du Paris Saint-Germain qui cale en route après un bon match la semaine dernière à Sochaux. On va parler de l'écrasante victoire de Lorient qui est en train de s'affirmer comme un des plus beaux jeux de France. On en parlera avec toi Aurélien. On a énormément de matchs à commenter ce soir. Je vous rappelle le score très vite et on ne va pas plus s'attarder dans les présentations. Monaco a fait match nul, donc 0 partout face à Grenoble. Valenciennes et Montpellier sont séparés également sur le score nul de 1 but partout. Le Mans s'est incliné à domicile contre Auxerre sur le score de 1 but à 0. Lorient a remporté à domicile le match qu'il opposait à Boulogne, donc 5 buts à 0. Nancy a perdu sur sa pelouse 1-0 face à Saint-Etienne. Le PSG a été défait également sur son terrain 1-0 face à Nice. Et le match à 21h sur Orange Foot s'est soldé sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Lensois qui se déplaçaient sur la pelouse de Sochaux. Donc, sans plus tarder... On va commencer donc par peut-être le match Valenciennes-Montpellier-Roméo. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à chacune de nos réactions et à chacun des matchs qu'on va commenter sur le chat de la radio. On vous attend également pour débattre avec vous. Donc Valenciennes-Montpellier partout. Montagneau avait ouvert le score très rapidement. Sanchez avait égalisé pour les Valenciennois. Roméo, qu'est-ce que t'en as pensé? T'avais l'air assez enthousiaste à la fin du match.
Oui. Au départ, c'est une opposition nord-sud entre deux clubs d'habitude les années précédentes abonnés aux joies de, entre guillemets, de la lutte pour le maintien. Sauf que cette année, bah, c'est différent. C'est un duel entre les deux meilleures attaques de Ligue 1. Montpellier et Valenciennes quand même, messieurs. C'est deux équipes très joueuses. Je regrette pas du tout, je regrette en aucun cas d'avoir choisi de regarder ce match. J'ai hésité longtemps avec Paris-Nice, mais je ne regrette pas mon choix. C'est un match sans temps mort, avec beaucoup d'animation, pas énormément de frappes au jeu, mais des belles séquences de jeu, pas d'équipe qui s'attendait. Il y a eu une mi-temps partout, un tir cadré partout, un but partout. C'est deux équipes qui possèdent énormément de similarités. Le système de jeu, 4-3-3, la mentalité aussi, c'est deux équipes très offensives, comme j'ai dit. Ce soir, on a vu deux ailiers, enfin un ailier chaque côté qui percutait beaucoup à Valenciennes, c'est Belhafala, Belanda à Montpellier, le
ben
jeune
Belhafala pour les Français, bien pur produit bourguignon comme moi.
Oui, et d'ailleurs Belanda qui a refusé la sélection espoir française parce qu'il veut jouer pour le Maroc, c'est à signaler. Il y a aussi les deux relayeurs qui ont été vraiment bons. Sanchez à Valenciennes, mais Aït Fana, qui a joué relayeur gauche ce soir à Montpellier, a vraiment été énormissime. J'adore beaucoup ce joueur. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, je sais pas, Aït, c'est berbère, mais je ne sais pas s'il est algérien ou marocain. Voilà.
Mais
celui qui peut préciser, merci. Il a été excellent. Montagneau, je t'aime. Par contre, Bicevac, c'est un gros connard et oui.
On mesure ses mots, Roméo, il n'est pas encore minuit, s'il te plaît.
C'est vrai, bon, 53 minutes. et il aurait mérité d'être expulsé pour ses multiples coups de pute. À noter que le match était suivi par l'enculeur de l'Atlas, notre Roger National. On annonce d'ailleurs une globale hausse des bénéfices des divers prêts du stade. T'impatientes pas, Roro, t'auras de quoi te lâcher quand t'entreras dans l'administration de la fédération.
pour te signaler, donc, franco-marocain, effectivement, Karim Aït Fana. Et je remercie.
Ah, dommage.
Je remercie Wikipédia, évidemment, parce que tout le monde se dit.
Merci.
Et donc oui, alors justement j'avais un petit peu quand même l'impression que c'était plus Montpellier, enfin je sais pas toi, mais c'était plus Montpellier qui marquait le pas, qui faisait un résultat un petit peu moyen, plus que les Valenciennois qui ont fait une bonne opération. Enfin ça, tu vois ça comment toi
Comme le contraire plutôt, Valenciennes qui a eu en deuxième mi-temps, ils ont eu, même s'il y a eu globalement une mi-temps partout, Valenciennes, j'irais, a quand même mieux maîtrisé sa mi-temps à elle. Ils auraient peut-être mérité de, ils ont vraiment poussé sur la fin, ils auraient peut-être mérité de marquer un deuxième but, mais la défense montpelliéraine a bien résisté. D'ailleurs, sur le but, il y a une frappe exceptionnelle de Coad. C'est vraiment dommage qu'elle meurt sur le poteau, et après c'est Sanchez, donc le Colombien, si je me trompe pas, de Valenciennes qui reprend. Mais non, je pense que c'est plutôt Valenciennes qui devrait se mordre les doigts de ce résultat au vu du nombre de tirs assez globalement assez en l'avantage des ch'tis. Mais Montpellier, belle équipe. Moi, j'ai envie de dire résultat assez logique. Bon, après, c'est des matchs comme ça où
tu comprends en fait. Ouais, c'est dans ce genre de match-là où tu comprends pourquoi Valenciennes et Montpellier sont souvent décrits comme les deux surprises.
Oui. C'est pas une légende. Valenciennes et Montpellier jouent vraiment bien au ballon. On avait pu le voir, les deux équipes ont joué contre Marseille, j'ai vu les matchs, mais là ces deux équipes m'ont encore plus impressionné et je me fais pas du tout de soucis. Ça montre à d'autres équipes de Ligue 1 qu'on peut jouer et qu'on peut avoir pas forcément un effectif bandant, mais jouer bien jouer au ballon et avoir un système, une mentalité de jeu plus plaisant.
C'était quand même somme toute le troisième déplacement consécutif des Montpelliérains. Donc Montpellier qui, on va dire, finit correctement sa série, donc d'après toi, un match où on a vu donc chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. Est-ce que tu peux nous donner le classement des deux équipes pour finir sur cette rencontre? Je vois que je te prends un peu de cours là.
tu me prends un peu de cours, mais je vais te répondre tout de suite, même si j'ai pas une super connexion d'où je suis. Mais je sais que
quoi, c'est... Quoi, tu n'es pas au stade de Valenciennes. Je blague, non, rien du tout.
Non, les deux équipes sont devant Marseille. Montpellier 6e, Valenciennes 7e, 21 points pour les Montpelliérains, 20 pour Valenciennes. Ça reste, Montpellier n'est pas, c'est la troisième, je me suis trompé, c'était la troisième meilleure attaque de Ligue 1, c'est Bordeaux la deuxième, mais Valenciennes reste la meilleure attaque de Ligue 1 avec 13 buts en 12 matchs.
Donc très bien. Je voyais en plus qu'il leur manquait leurs deux meilleurs buteurs, donc Costa et Zodi, tu l'avais dit, non, je parlais pour les Montpelliérains, oui, puis Mamadou Samassa, évidemment, le grand absent côté Valenciennes.
Il était très bien habillé ce soir.
C'est à signaler parce que on peut pas signaler grand chose d'autre sur Mamadou Samassa. On passe au Paris Saint-Germain. Adrien nous a rejoint. Bonsoir Adrien. Le périph' s'est un peu débouché. Il a eu le temps d'arriver. Est-ce que tu n'es pas trop démoralisé, si je peux te poser cette question là?
Bah complètement. Bah on a vu vraiment une équipe du PSG vraiment très très faible, qui produit aucun jeu, qui vraiment est pitoyable, qui est irrégulière, quoi. Quand on voit le match de la semaine dernière et qu'on voit le match de cette semaine, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, c'est un peu embêtant, on a vraiment des joueurs qui ont vraiment rien à branler, excusez-moi du terme, mais vraiment rien à branler du PSG, j'ai l'impression. Je vais surtout mettre l'accent sur deux joueurs principalement, c'est Lune Doula et Maïk Kidele. Franchement, ces mecs ne peuvent pas m'attendre au PSG. J'ai surtout Makelele, mais il est vraiment qu'il aille à la maison de retraite, quoi. Mais il ne sert plus à rien, pas ralentir le jeu, il sert qu'à ça. Et la sa suspension face à l'OM va nous faire du, va nous faire un grand bien, à mon avis. Et bon, après, ouais, tu voulais dire un truc à moi.
Mais non, justement, c'est vrai que t'as l'air assez dur. Alors moi, sur Louis Ndoula, alors je suis d'accord avec toi sur Makelele, ça fait pas mal de temps. Alors j'ai milité pendant un bon bout de temps à l'encontre de Jérémy Clément, parce que je trouvais que son jeu était pas approprié à son rôle. Depuis la moitié de la saison dernière, on va dire, et puis ce début de saison, je le trouve vraiment vraiment bon. Alors là, je comprends pas. Il était, pourquoi il était sur le banc t'as une explication? Il était.
Bah, franchement, quand j'ai vu la compo en arrivant en parc, j'ai pas trop compris pourquoi il était sur
d'accord.
le banc.
On n'a pas trop d'explication. Ouais.
Chanteau en plus est sorti. Il a reçu un coup. À la... Je sais pas où il a reçu son coup, mais il est sorti. En plus, il a fait rentrer Ngoui. Donc, qui doit avoir pas de problème, à mon avis.
Ouais, et puis Sankaré après est rentré à la place de Julie. Sankaré qui est également un gaucher un peu comme Clément, même si Clément est quand même plus défensif. Donc, oui, ouais. Alors j'ai pas compris. Bon, alors donc je suis assez d'accord sur Makelele. C'est vrai que depuis pas mal de matchs, il a une certaine, en fait, une certaine protection à cause de son aura de footballeur ex-équipe de France, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas trop le critiquer dans les médias. T'es assez d'accord avec ça?
Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est même pas sur le plan défensif. Quand on essaye une contre-attaque, tout comme ça, il joue en marchant, il court pas ce mec, il trottine à chaque fois, dès qu'une contre-attaque et veut partir, ben lui il trottine. J'ai l'impression qu'il donne pas, il en donne pas assez, quoi. Il a l'impression qu'il a rien à foutre. Enfin, même défensivement, offensivement, il apporte rien du tout.
Ouais, d'accord. Et donc voilà, pour finir sur le cas des deux joueurs que tu as cités, moi je trouve que t'es un peu dur avec Louis Ndoula, parce que Louis Ndoula, je pense que c'est même si aussi je l'ai critiqué juste pour peut-être un petit peu cette nonchalance qu'il y a, cette désinvolture qu'il peut avoir des fois, je trouve que en fait c'est un peu son comportement, quoi. Le contraire avec Makelele, qui Makelele est plutôt un battant et plutôt quelqu'un d'assez présent sur le terrain. Louis Ndoula, comme il est assez nonchalant, je sais pas si on peut dire qu'il s'en fout vraiment du PSG. Enfin, toi, t'es vraiment dans ce... Tu le cibles vraiment dans tes critiques, quoi. Ah, on a perdu Adrien, apparemment. Bon, on va le récupérer.
Non, je voudrais juste...
Oui, vas-y, finis, Adrien.
Non, mais c'est juste que je trouvais que l'une de là, il était pas bien placé. Il se replaçait jamais, donc il est jamais à son poste, en gros. Question offensivement aussi, il était pas... Il a pas été bon, il essaye de s'écrouler à chaque fois, enfin... Il cherche tout le temps la faute.
D'accord.
Il a obtenu la semaine dernière, il va pas avoir les arbitres chaque semaine.
Ouais.
Il arrête. Hein.
Je comprends. Oui, Rognetto, tu voulais peut-être intervenir.
Ouais, non, je voulais juste revenir sur Makelele, ce qu'il disait. Je suis d'accord avec lui, même si j'ai pas regardé tous les matchs de Paris cette saison. Et je voudrais, ouais, donc je pense que Chantôme a mille fois sa place au milieu de terrain. C'est un jeune joueur qui a beaucoup envie, qui aime son club, parce qu'il aurait pu partir, il avait beaucoup de propositions cet été.
En plus, à Marseille notamment, non? On en avait parlé, je crois.
Possible, mais vers l'étranger, il me semble, Arsenal était intéressé, tout ça. Et surtout qu'avec Clément, ça pourrait être bien complémentaire. Un joueur qui joue au milieu offensif, un joueur plus offensif comme Clément, avec sa capacité d'accélération, de punch,
à droitier,
ça frappe
à gaucher
de balle.
En plus, c'est...
Voilà. C'est... Et donc pour Makelele, c'est vrai qu'il y a beaucoup de je m'en foutisme dans son jeu. Le centre qu'il fait à la fin du match, alors que Paris vient de se prendre le but, c'est un centre, même pas il s'applique, c'est allez hop, je balance ça devant, ça sort en 6 mètres, c'est pas grave. Et c'est vrai que si je me mets à la place de Parisien, ça doit commencer à m'énerver, puisque comme il a dit Adrien, c'est un joueur qui est plutôt intouchable de par son passé. Et voilà, donc c'est assez embêtant. Et il faudrait que Camboiré pense à faire jouer Chantôme et Clément au milieu et à trouver un autre capitaine, parce que Makelele, c'est pas trop ça en ce moment.
Concernant t'as parlé de Chantôme à l'OM, mais je te rassure, c'est resté au stade de la rue. Enfin, rassure, je sais pas. Mais ce n'était qu'une mini rumeur.
D'accord. C'était surtout Arsenal, effectivement. Rognetto avait raison sur ce plan-là. Donc, bah, justement, pour ce problème Makelele un peu Clément, là, cette place au milieu de terrain, ça nous amène directement à l'entraîneur du PSG. Je voudrais poser une petite question à Adrien, tant qu'on l'a là. Qu'est-ce que tu penses de Camboiré quand on le compare à Le Guen? Honnêtement, honnêtement, de toi à moi, je vois vraiment pas une énorme différence, à part peut-être dans son franc-parler où il est un peu plus direct que Le Guen. Mais bon, moi encore son franc-parler, ça me faisait rien. Le Guen, il parle comme il veut. Il y a des entraîneurs qui sont plus directs que d'autres. Je sais que par exemple, Steele Antonetti, il y en a, ils adorent. Moi, je sais que j'aime pas trop ça, même s'il a pas mal de résultats. Camboire a peut-être un style plus direct dans ses propos, mais dans ses choix tactiques, moi on me disait, il faut dire que je suivais vraiment pas trop Valenciennes, on me disait que Valenciennes produisait un jeu assez intéressant lorsqu'il était entraîneur. Je sais pas, mais moi je le retrouve pas du tout ce jeu intéressant à Paris en ce début de saison. J'ai pas encore vu un gros et beau match du Paris Saint-Germain. Seul gros beau match qu'on me parle du Paris Saint-Germain, c'est le PSG Lyon. PSG Lyon, il y a quand même une possession de balle de 35% pour le PSG sur l'ensemble du match. C'est pas un grand match pour moi de faire 35% de possession de balle et d'avoir 2-3 grosses énormes occasions sur des contre-attaques. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que
on avait vraiment été excellent. Après sur les autres matchs, on a jamais produit un gros match. Après, pour revenir à Camboire, c'est vrai que parfois il y a des choix qui sont. Enfin, moi, pour l'instant, j'en suis pas mécontent. Je critique pas trop, mais bon, c'est vrai que ces choix ce soir, j'ai été un peu surpris quand je vois qu'il sort Tchara. Alors que depuis le début de la saison, on va dire qu'il a jamais. Il a toujours été bon. Et qu'il met Jallet en arrière-droit, qui sort Clément, alors que lui aussi, c'est un des meilleurs joueurs parisiens depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il y a des choix que je comprends pas trop, de garder. Après, il a fait un nouveau dispositif la semaine dernière qu'il a mis en place, qu'il a encore reconduit ce soir. Un 4-5-1, enfin un 4-2-3-1, qui avait marché la semaine dernière, mais qui encore ce soir n'a pas marché. D'ailleurs, un point sur Cessignon qui a encore été vraiment mauvais, alors que dimanche, on est mieux hors d'espoir quand on l'a vu un peu mieux jouer que son début de saison, mais encore ce soir.
Un éclair quand même dans la nuit pour Cessignon, ça frappe sur la barre quand même.
La frappe sur la barre, c'est un
coup de chance. C'est
une à mon avis.
Ouais, c'est exactement comme son but contre Sochaux l'an dernier. C'était en début de saison. Non, c'était l'an dernier.
C'est ça. Ouais. Magnifique.
Ouais. Mais c'est ça, oui. On se demande en fait d'où il les sort, puisque après, il va te refaire une série de 20 frappes durant les matchs suivants qui seront toutes pas cadrées.
Non, mais enfin, ce soir, c'est sinon, il était inutile. À un moment, je l'ai pas vu pendant 20 minutes de suite pendant le match. Je ne l'ai pas vu. Enfin, il me désespère, quoi. C'est vraiment.
Et puis, honnêtement. Je voulais te faire un petit commentaire, même pas te poser une question. Honnêtement, les jeunes joueurs du PSG, hormis Chantôme, sont mauvais. Est-ce que ça pourrait être un fait
Comment ? Ils ont plus d'expérience en Ligue 1, donc c'est sûr que les lancer dans le grand bain comme ça.
Non.
On voit que la connerie. C'est juste qu'on voit la connerie de vendre des mecs comme Kesman et Rotem, peut-être qu'ils étaient pourris, mais au moins ils ont un minimum d'expérience et les garder dans un effectif. Même s'ils sont mauvais, ça peut apporter un petit truc. Les Ngoi, les Sankari, ils vont rien apporter au PSG. Hein.
Puis-je te dire que je t'aime, Adrien, pour cette dernière tirade que tu as dit. Franchement, ouais. Merci d'avoir dit ça. Quand tout le monde critiquait les Rotten et Kesman, c'est clair que dans ce genre de moment, il pourrait être bien plus utile qu'un Sankari qui a fait un moment.
Doucement sur Ngoi. Hein.
Comment ?
Doucement sur Ngoi.
Ah, ça y est.
Encore, il a été mauvais, Ngoi. Hein. Il a peut-être joué.
Je plaisante parce qu'il a débuté dans ma ville, il vivait dans ma ville avant qu'il parte au centre de formation du PSG, voilà, pour ça. C'est pour ça. Ainsi que Chantôme.
Voilà. Ouais, ça on savait ça.
Et t'as eu une relation sexuelle avec donc Makelele sera suspendu à Marseille, donc tu l'as dit. C'était en tout cas la principale information de la première période. Et ça m'a un peu choqué également, Adrien. Alors là sur sa nonchalance, parce que quand il s'est pris donc ce carton jaune là pour le tac qui est quand même limite, hein. Il a même pas, tu sais, il a même pas protesté ni rien, ça avait même pas l'air de le faire chier, quoi, parce qu'il savait très bien que ça allait finir.
Il en a rien à foutre, en gros, il a vraiment rien à foutre. Et comme a dit Ronnie Eto'o tout à l'heure, faut vraiment changer de capitaine, quoi. Après, notre second capitaine, c'est Armand, mais, Armand, il a pas de charisme, j'ai l'impression, moi, je choisirais plutôt un mec comme Coupé.
Ouais, ce que j'allais dire.
Vraiment, Coupé, c'est vraiment un mec, j'ai rien à lui reprocher depuis le début de la saison, il donne vraiment pour le club.
Tu lui reproches rien?
Comment?
Ce soir, tu lui reproches rien, il fait jusqu'au but quand même, parce que le but, il est.
J'ai pas vu des images, donc je peux pas te dire. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand Traoré soit complètement sur une action en première mi-temps, il essaye de tacler le ballon, il passe à travers, je sais pas comment. T'as Sako et Coupé qui ont vraiment été excellents à un moment. Heureusement qu'il était là, mais bon, Sako sur le but, il fait une énorme erreur en essayant de balancer devant. Et il fait n'importe quoi. Ça fait une longue balle qui revient sur Makelele derrière lui, en gros. Donc, il a pas été... Sako, il avait été irréprochable sur le début, sur tout le match, à part cette erreur qui coûte un peu le but quand même. C'est un peu embêtant. Quoi.
Oui, je voulais revenir moi sur la performance de Makelele. On a fait beaucoup de bruit sur les propos de Christian Gourcuff sur Makelele. Tous les Parisiens étaient d'accord pour défendre leur capitaine dans l'ensemble, mais on se rend compte encore une fois sur le long terme que Christian Gourcuff, qui connaît le football, avait raison. Et puis même, j'irais plus loin en allant sur Comboiré. Je veux dire, il fait beaucoup de blabla pour rien. Mais un entraîneur qui a des résultats peut faire ce genre de déclaration, mais il n'a pas de déclaration encore pour moi, donc pourquoi il continue comme ça? De résultats, oui, je voulais dire. Et donc il continue à faire des déclarations alors qu'il n'obtient pas de résultats pour le moment et qu'il est plus près de dégager que de rester en place au PSG. En tout cas, je ne sais pas, mais je pense que si ça continue comme ça, vu comment ça se passe d'habitude au Paris Saint-Germain, il ne va pas tarder à être éjecté. Et sauf révolution. Et puis sinon aussi, je vais demander un mot sur Jallet, parce que la semaine dernière, on a eu un débat tous les deux, Adrien, sur la performance de Jallet. Et apparemment, il a fait un bon match encore sur le milieu droit, donc j'ai tort par contre sur Jallet. Donc,
je voulais parler de Jallet, et quand j'ai vu arrière droit Jallet, j'ai tout de suite pensé à toi. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle le débat qu'on a eu la semaine dernière. Et bah, qui l'ai trouvé moins bon qu'en arrière qu'en milieu droit. Moi, je l'ai pas trouvé excellent. Parfois, il a vraiment été... Il a été un peu à la limite, il jouait plus offensivement qu'au défensivement. Je l'ai trouvé meilleur lors de ses matchs précédents en milieu droit qu'en arrière droit. Moi, je l'ai pas trouvé très très bon.
Ouais, Rognetto.
Désolé de te décevoir.
Je voulais revenir aussi sur le fait que Paris a perdu 7 points dans le dernier quart d'heure. Donc c'est une statistique assez... c'est surprenant quand on sait que Paris doit être une grosse équipe de Ligue 1, donc qui devrait savoir gérer ses matchs. Et si on ajoute les 7 points, ça ferait que Paris serait sur le podium. Et moi, je dis que rien n'est fait au hasard. Et quand on regarde le but de Rémy ce soir, on voit déjà un relâchement de la part de Sako qui est plus trop concentré quand on voit le contrôle qu'il fait. Et ensuite, le centre de Mounier de la gauche, franchement, si les joueurs étaient encore au top concentrés, le centre, il n'aurait jamais eu lieu, vu que Mounier, il y avait Jallet, il me semble, qui devait le marquer, et au lieu de l'attaquer, il le regarde, il a un mètre de lui, il le regarde, et Mounier, il a tout son temps pour centrer. Donc il a juste son centre sur la tête de Rémy, mais donc voilà, je sais pas si toi, Adrien, de là où t'étais, t'as remarqué, tu remarques des relâchements dans les derniers quarts d'heure parisiens, mais c'est assez dommage.
C'est vrai que depuis le début de la saison, comme tu l'as dit, on se prend énormément de buts dans le dernier quart d'heure, mais c'est vrai que parfois, enfin, il y a des sauts de concentration dans le dernier quart d'heure, c'est indéniable, et les mecs comme Sako, parfois ils se concentrent plus trop sur le match, ils font des erreurs, donc comme tu l'as dit, le contrôle de Sako qui soir, voilà, et même sur le but, ce qui donne la balle au Niçois, c'est le dégagement de Sako qui part en arrière et qui arrive sur un Niçois. D'ailleurs, une très belle, surtout que Makelele regarde le ballon arriver en arrière, il fait rien du tout. C'est vrai que il y a un relâchement, c'est indéniable, ça, c'est, je peux te l'accorder.
Ouais. Pour Jallet, donc, je reconnais que j'ai tort, mais je reste sur ce match-là, j'ai tort, mais je reste sur persuadé qu'il sera meilleur arrière droit. J'ai hâte de le voir plus souvent à ce poste-là. Et oui, je vais revenir aussi sur Nice, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de Nice. Nice qui a gagné et puis qui marque, si j'ai compris, c'est grâce à une passe de Mounier sur Rémy. Donc ça veut dire que le recrutement de Nice a été payant avec Mounier cet été. Et puis surtout, je voulais remarquer que Lyon doit s'en mordre les doigts, parce qu'avec un Rémy que j'ai trouvé excellent l'an dernier à Nice, que je trouve excellent depuis le début de saison, et un Mounier maintenant qui commence aussi à être bon, Lyon va avoir des regrets d'avoir laissé passer deux joueurs de son centre de formation.
Mounier n'a pas été exceptionnel, je te l'accorde. Il n'a pas été très très bon.
Oui, Rémy plus, il s'est créé plusieurs occasions, Rémy. Et...
Faut pas oublier.
Oui, vas-y.
faut pas oublier que cette vente de Rémy, ça a permis l'achat, l'acquisition d'Ederson et de Lloris.
Surtout de Lloris, tu devrais dire. Surtout. Ouais. Oui, donc, bah, pour revenir justement un petit peu par rapport à ces Niçois, il y a Bat69 qui nous pose sur le chat et qui te pose la question, surtout Adrien, sur le chat. Est-ce que, en plus du fait que Paris a mal joué, ne serait-ce pas le bon, voire très bon match de Nice sur ses contre-attaques qui a fait basculer la rencontre en leur faveur? Et là, en fait, je voudrais te poser la question, est-ce que quand Paris joue une équipe qui est assez compacte au milieu de terrain, qui est présentable, pas comme le Sochaux de la semaine dernière, est-ce que Paris a d'énormes difficultés, ce qui remettra un peu en cause leur si belle et magique victoire qu'on a entendue partout contre Sochaux, une victoire qui devait lancer leur saison, etc. Pour moi, c'était surtout parce que Sochaux n'existait pas. Ce soir, t'as une équipe en phase 2. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de ce raisonnement-là, toi?
Je dirais pas que Nice est exceptionnel. Les occasions que se sont créées les Niçois, c'est surtout à cause d'erreurs parisiennes, surtout à cause de Traoré qui fait deux erreurs monumentales, ou heureusement que c'est Bagayoko en face, parce que si c'est Rémy qui a la balle à sa place, on se prend 3 ou 4-0 à la place d'un 0. Traoré fait d'énormes erreurs sur une ou deux actions, mais Nice n'a pas été exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment le PSG qui a été mauvais. Après, c'est vrai qu'il y a deux trois actions qui peuvent intéressantes, qui sont intéressantes du côté de Nice, mais de là être supérieur au PSG, je pense pas. Parce que le PSG se crée une occasion grâce à Erling d'ailleurs, qui a été excellent, d'ailleurs c'est le joueur qui ressort encore une nouvelle fois du effectif parisien avec la barre de Julie, et la barre de Julie et la barre de Cécile, c'est deux actions principales du PSG, mais de là à dire que Nice a été supérieur, je pense pas.
Il fallait pas s'attendre non plus à ce que Nice vienne au parc pour faire le jeu. Nice, ils ont réussi à battre Lyon, ils ont battu ensuite c'était Le Mans. Ils étaient sur deux victoires d'affilée. Il fallait pas non plus qu'ils viennent pour faire n'importe quoi. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire tout d'abord bien défendre et essayer de ressortir au mieux les ballons. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu deux transversales et un poteau pour Paris. Mais bon, la chance, ça leur a sauvé à la fin. Puisque
je vois pas le poteau.
Le poteau d'Erding, ensuite il y a eu une frappe de Julie sur la barre et une frappe de Cessignon sur la barre.
Je vois pas du tout le poteau d'Erding.
Non, Erding n'a pas fait de poteau. Le troisième dont on parle, puisque Paris parle, tout le monde parle de malchance à Paris, le troisième poteau c'est en fait un coup franc de Jallet qui effleure vraiment le poteau.
D'accord.
Mais il me semble bien qu'il y a une tête d'Erding quasiment immanquable sur le poteau.
Ah si, effectivement, oui.
Oui,
si c'est en début de seconde mi-temps, je sais pas si tu vois. Ouais. Effectivement, ouais, ça fait
quoi, poteau.
Ouais, donc je n'ai aucun souvenir. Je sais pas pourquoi, mais je.
D'ailleurs, c'est j'ai envie de dire, plutôt un assez raté.
C'est un super centre de commencer.
C'est Jallet. Donc voilà, 4 poteaux. Bon, Nice, ils ont fait ce qu'ils. Ils ont eu la chance de marquer sur une action à la fin, bien construite, avec un bon renversement et un super centre de Mounier. Et ben, Paris, qui n'a pas eu de chance, ils n'ont pas eu de chance jusqu'au bout. Donc, tant pis pour eux.
Voilà. Bon, 23h31, je pense qu'on aura fait une belle page Paris-Saint-Germain. Après ce match-là, on peut encore poser la question toujours du problème du Paris Saint-Germain à gérer les matchs quand c'est eux qui ont la possession de balle, puisque tu le disais bien, Ognetto, Nice n'allait pas venir pour faire le jeu ce soir. C'est un problème qui était récurrent l'an dernier, et on a l'impression qu'il n'est pas terminé. Ces problèmes refont surface, pas. Adrien, pour conclure, tu penses que, enfin, t'es assez d'accord avec moi sur ce plan-là?
Bah, la semaine dernière, face à une équipe de Sochaux, on avait quand même assez la possession, donc je dirais peut-être pas qu'on est obligé de faire le jeu. Je pense pas qu'on est au dos au mur. Je dirais pas ça. Enfin, je sais pas.
Non. Ouais, on a. Et le match contre Marseille, tu l'appréhendes plus qu'il y a 3 heures avant de commencer la rencontre face à Nice?
Ah, pas du tout. En fait, le match face à Marseille, c'est un match différent des autres. Il y a un match, il y a un avant Marseille, il y a un après Marseille. Donc, je me dis qu'on peut très bien taper Marseille.
Oui, tu vas me dire l'an passé, vous leur mettez 4-2 là-bas alors que tout le monde vous annonçait perdant.
Voilà, et puis après on peut perdre contre contre Grenoble, je sais pas si on les joue après, mais on peut perdre contre n'importe quelle équipe.
Bon, et très bien. Oui, Roméo.
Il y a une réaction de Chris, je suis obligé de la lire, qui nous dit « Salut les gars, salut à toi Chris, est-ce que Paris ne pourrait pas créer de nouvelles grilles B, C, D pour être champion ?» Proposition.
C'est une opportunité, ouais.
Messieurs Génération Soccer, 23h32, on passe au prochain match. Le prochain match qui est évidemment à l'honneur ce soir, c'est notre cher Aurélien. 5-0, victoire des Lorientais sur leur terrain, qui grimpe à la 8e place du classement. Et débute deux doublés ce soir, Gamero et Vairua, et un but d'Amalfitano. Un petit résumé de la rencontre avant de commencer une analyse plus approfondie, Aurélien.
Oui, bien sûr. Juste avant de se rectifier, on est à la 5e place provisoire actuellement, pas à la 8e place.
Quel classement moisi que j'ai, quoi.
Ce n'est pas grave. Oui, bah alors un petit résumé du match. Alors, Boulogne-sur-Mer qui commence très bien la partie. Les joueurs de l'Anx sont plutôt invisibles. Boulogne qui dans le jeu domine et qui a du mal à se procurer des occasions devant le but. La plus grosse occasion étant à mettre à l'actif de Moussilou qui se loupe totalement face à Audar. Et du coup, face à une équipe de Boulogne-sur-Mer qui a du mal, les joueurs de l'Orient commencent à prendre confiance. Et donc on a quelques belles occasions de Vairua et Gamero. Et là, on sent que l'Orient va ouvrir le score. Et on ouvre le score l'Orient par Gamero. Et voilà. Et là, on se dit que ça va, c'est bien, on est parti dans le match, etc. Et ça se confirme. On met après la pression sur Boulogne-sur-Mer et on met le deuxième par Vairua. Puis après,
on déroule,
voilà, tout à fait, en seconde période. En seconde période, c'est Blanc-sur-Mer qui commence le mieux. Et puis après, on a la chance de marquer, donc tout rapidement à la 49e, par Gamero. Et donc après, là, on déroule. Blanc-sur-Mer n'est plus du tout dans le match, pas du tout. On assiste à les actions pour l'Orient s'enchaînent. Et puis là, il y a une belle frappe de Ducasse qui est déviée par Vairua. Moi, le but dans le jeu, je le donne à Ducasse, mais apparemment le but le donne à Vairua. La LFP le donne à Vairua.
Ouais, et puis après, non. Ouais.
Voilà, ouais. Moi, dans le geste et la volonté, je donne plutôt à Ducasse parce que Vairua, il fait juste le dévier, alors que la frappe est Ducasse et elle est magnifique. Et donc voilà, je suis un peu voilà. Mais bon, la LFP le donne à Vairua. C'est 6e but. Et puis après on domine. Il y a une belle action pour Boulogne avec Robert qui est concrète à Boulogne-sur-Mer, qui est formé à Lorient, qui loupe l'occasion de sauver l'honneur pour Boulogne-sur-Mer. Et puis après à la dernière minute, sur un corner que Boulogne-sur-Mer envoie mal, et bah Amalfitano marque un but et puis du coup on gagne 5-0. C'est la première fois qu'on gagne 5-0 cette année. Et puis c'est le plus gros score aussi de Lorient en Ligue 1.
Il me semble que c'est le plus gros score, le score le plus large de la saison. Et je voudrais juste, comme je t'avais dit avant l'émission, revenir sur la performance de Koné, le gardien boulonnais, qui s'est, assez bien trouvé ce soir. De mauvais alignements, des sorties pourries. C'est vraiment pas un gardien qui rassure. Quand le premier but de Gamero, il est tout à son image de comment il était pendant le match, c'est-à-dire que on voit Gamero lancer en profondeur un peu excentré et pourtant il y a un défenseur en marquage, on sait pas pourquoi le gardien sort alors que on voit très bien que le défenseur va revenir sur Gamero et le déposséder du ballon, donc on comprend pas pourquoi il sort et du fait de sa sortie, Gamero voit les cages vides, il a plus qu'à redresser la balle. C'est assez dommage puisque comme tu l'as dit, Boulogne, ils étaient plutôt bien rentrés dans la partie et prendre un but comme ça, ben ça les a libérés aux Lorientais qui, quand ils sont libérés, jouent très bien au foot. Sans conteste, une des 2-3 meilleures équipes pour la qualité de jeu en Ligue 1 C'est franchement un régal techniquement avec des petits joueurs de poche comme ça. Bayerilla qui me super bute encore, même si Koné encore n'est pas exempt de tout reproche. Donc voilà, moi Lorient c'est, ça me plaît de plus en plus. Et
une bouffée d'air frais dans cette ligue, qu'en penses-tu?
Une bouffée d'air frais et qui a même fait sourire Christian Gourcuff, je crois que c'est la première fois que je le vois sourire.
Ah oui, on en parlait avec Aurélien tout à l'heure avant le, enfin, avant le début de l'émission, et effectivement, Aurélien aussi n'a pas beaucoup de souvenirs de voir comme ça la télévision Gourcuff sourire comme ça sur le bord du terrain, et on l'a vu ce soir. Une petite information entre guillemets marrante, enfin moi que je trouve marrante, après vous la trouvez pas marrante, c'est pas mon problème, c'est que Lorient a pris la revanche en fait de ses pêcheurs, puisque vous savez que c'est deux ports de pêche, Lorient et Boulogne-sur-Mer, et il y avait eu un match amical l'après-midi entre les pêcheurs du port de Boulogne et ceux de Lorient, et c'était Boulogne qui s'était imposé pour la petite histoire de 1-0, même si évidemment c'est vraiment l'information dont tout le monde se... Je ne dirais pas le mot, mais se fout.
En bot, et... ils ont joué en bot.
Voilà.
Le nom des buteurs, s'il te plaît.
Ouais, honnêtement. Honnêtement, vous me prenez pour qui?
Jean-Marchal Le Floch.
Ah bah effectivement, je pense que t'auras un le dans le nom, mais bon, bref. Et on a pris la revanche, donc les pros ont pris la revanche ce soir. Une belle victoire qui donc amène à la 5e place. On le disait, les Lorientais tout à l'heure. Aurélien, quel objectif tu penses et tu escomptes pour ton club, parce que t'es quand même en droit d'espérer autre chose que un maintien le plus rapide possible, comme on entend tout le temps dans les clubs du genre, si tu me permets l'expression, Lorient.
Moi toujours la même chose, le maintien, j'ai pas changé d'objectif. Mes deux ambitions pour mon club, c'est des beaux matchs comme ce soir, même si ça n'a pas été parfait sur l'ensemble de matchs. Et puis le maintien, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que Lorient reste en Ligue 1. Après, on verra. Si je dois viser autre chose que le maintien, je le dirai, mais vers février-mars. Là, on pourra parler. Pour l'instant, c'est juste du plaisir. On profite. On est 5e provisoire. Voilà, c'est bien. Et puis, je voudrais ajouter un truc, voilà, notre duo d'attaque qui fonctionne vraiment bien, Vaiura Gamero, 12 buts à eux deux, ça doit être un des meilleurs de Ligue 1, j'en connais pas en tout cas, pour le moment, qui claque aussi bien. En plus, Vaiura est à une passe décisive, Gamero à 4 passes décisives, donc, vraiment, ça marche super bien, donc voilà, ouais.
Oh, non, là, tu m'as déçu, là, parce que, honnêtement, hein, franchement, quand tu, regardes le classement, les équipes qui sont plus ou moins loin de toi, soit devant toi, soit derrière, j'en compte pas énormément qui jouent mieux que toi. Par exemple, dans celles qui sont au-dessus de toi, on a Auxerre, qui joue aussi bien, on va dire, que Lorient, et Bordeaux, parce que pour moi, Monaco n'a pas du tout sa place dans le top 5 français. Alors là, je
Valenciennes.
L'affirme et je le confirme. Lyon joue pour l'instant vraiment très 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 petit bras et n'a strictement rien d'un potentiel champion pour moi en championnat, hein, je parle bien en championnat parce qu'ils ont un visage totalement différent en Ligue des Champions. Pour moi, oui, Bordeaux et Auxerre jouent aussi bien, on va dire, si on peut comparer la qualité de jeu, que Lorient. Donc pour moi, Lorient peut vraiment viser quelque chose de pas mal. Et effectivement, tu le disais, Roméo, Valenciennes joue aussi bien. Enfin bon, bref. Passons au match. Ah, une petite dépêche avec toi, Adrien, d'une déclaration de Grégory Coupet à la suite de cette rencontre qui n'y est pas allé de ma mort. Enfin, il a pas pesé ses mots...
Ouais, il a dit que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Comment c'était la défaite, c'était on a pris une belle chiasse, voilà.
Je connaissais pas.
D'ailleurs,
il devrait se couper les cheveux par la même occasion.
Ouais. D'ailleurs, qu'on pourrait attendre une conférence de presse, on s'était pris pour une grande équipe, alors qu'on ne l'est pas du tout et qu'on avait encore du boulot à faire.
Effectivement, et là encore, on revoit son fameux franc-parler. Ça, je pense pas que Le Guen aurait été capable de dire un truc pareil l'an passé. Quoi.
Il aurait dit qu'il fallait continuer sur cette
dynamique.
Voilà, exactement.
Ingrat.
Passons au match auxerrois, bien que Rémi ne soit pas là ce soir, notre consultant spécial à Auxerre, pardon, je commence à intégrer le fait qu'on dise Auxerre et pas Auxerre. Les Auxerrois donc qui arrivent enfin sur le podium depuis le temps qu'on les attendait pour leur niveau de jeu parce qu'ils le méritaient honnêtement, et même si c'est une équipe peu médiatisée, ils le sont, et pour moi c'est entièrement mérité, enfin bien plus qu'un Monaco qui a passé déjà deux journées, on reviendra sur Monaco plus tout à l'heure, et donc sur son incroyable lancée, Auxerre, ça n'empêche, c'est le sixième succès consécutif, là c'était donc à l'extérieur, ce soir c'était au Mans, 1-0. Je trouve quand même ça assez, on va dire assez extraordinaire, parce que une équipe comme Auxerre, on n'aurait jamais pu parier, parce qu'on peut pas dire que le recrutement ait été judicieux, puisque c'est une équipe pratiquement similaire que celle de l'an qui se présentait l'an passé. Personne n'aurait pu imaginer un début de saison pareil côté Auxerrois. Et je trouve que c'est vraiment vraiment quelque chose de sympathique de voir les Auxerrois, parce que ils ont des bons joueurs qui n'ont jamais forcément explosé en Ligue 1, donc on pense évidemment à Pedretti. Ils ont devant Yellen qui est vraiment un super joueur. Alors ce soir c'est le pauvre Paolo Andrade qui a mis un but contre son camp à la 50e minute environ. Et les Mansots qui pourront quand même avoir quelques regrets, puisque le Talek a vu son pénalty repoussé en fin de match par Olivier Sorin, le gardien auxerrois. Ils avaient obtenu un pénalty en toute fin de match, mais en tout cas c'est les 3 points de la victoire pour les Auxerrois. Jean Fernandez a d'ailleurs confirmé que le Mans méritait pas de perdre, assez sportif sur ce coup-là, mais pour moi je trouve que c'est bien de voir une équipe comme ça, parce que au moins elle a le mérite de jouer correctement, et tandis que en revanche si on parle côté Mansois, les comté Mansot, excusez-moi, ils tombent à la 19e place, et vu la malchance qu'ils ont et pas forcément également le bon jeu qu'ils peuvent produire, on peut vraiment s'inquiéter pour eux tout comme moi. Je vois, s'il y avait déjà un trio à donner pour la descente, je vois bien Le Mans et Boulogne pour accompagner Grenoble. Ouais, Rognetto, je sais pas si tu voulais
dire. Ouais. Ben moi en fait quand le TFC ils avaient battu Le Mans à domicile, j'avais encore beaucoup d'espoir pour cette équipe Mansel, parce qu'ils jouaient plutôt bien, techniquement c'était assez affûté, mais là j'ai vu les 3 derniers matchs, c'était contre Bordeaux, contre Nice et aujourd'hui contre Auxerre, et au fil du match je me rends compte qu'il y a de plus en plus de déchets techniques, et ils ont vraiment du mal à se projeter vers l'avant. Bon, ce soir, tu l'as dit, ils ont eu l'occasion de marquer. Il y a eu une tête d'Eschtat sur le poteau, un penalty manqué à la fin qui scelle complètement la malchance totale de cette équipe en ce moment. Puis ils sont tombés aussi contre une équipe d'Auxerre très réaliste qui aurait pu marquer bien plus tôt, parce que je trouve aussi que Nicolas il revient super bien, il retrouve des jambes, et il a fallu adresser une super passe décisive pour Yellen, qui était à deux doigts de tromper Ovono. Et donc voilà, Auxerre qui sur un but classique, c'est-à-dire Yellen lancé dans la profondeur, marque un but. Donc là c'était une frappe repoussée sur le gardien, et le défenseur sans le vouloir la met dans ses propres buts, et donc voilà, pas de chance du tout pour cette équipe du Mans, et c'est dommage parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, Eschtat, le Talek, mais ils ont l'air d'avoir du mal à compenser les départs de Pelé, Gervinho, Coutadeur, et je pense que ça va leur être très 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 préjudiciable, et ça va être dur pour eux. J'étais confiant il y a quelques semaines, mais de plus en plus, je me dis que ça va être franchement une saison difficile, et qu'il va falloir se battre pour le maintien tout simplement, et on va voir s'il y a une réaction dans les prochains matchs, mais bon, ça va être difficile, et saison galère quoi.
Oui, Rognetto, la semaine dernière, on avait eu un débat justement sur Auxerre, s'ils étaient capables ou pas de rester dans le classement, et on avait aussi parlé de Monaco, qui avait semblé marquer le pas après sa défaite face à Bordeaux. Et la semaine prochaine, justement, en parlant de ces deux équipes, il y a un choc Auxerre-Monaco, et je pense que ça va être très intéressant de voir quelle équipe va l'emporter, pour voir si une des deux équipes est capable de rester dans le tableau, et voir quelles vont être leurs ambitions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est vrai, ça va être intéressant, parce que c'est deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu, qui arrivent à bien jouer quand des équipes comme Marseille, Paris qui se livrent beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça je pense que Monaco ce soir a eu du mal à battre Grenoble, et c'est même pour ça qu'ils n'ont pas battu. Donc ouais, c'est deux équipes assez semblables dans le style de jeu, avec chacun leurs armes respectives, et c'est vrai que ça va être le match intéressant à voir lors de la prochaine journée, parce que comme j'ai dit, c'est deux équipes qui pratiquent un jeu assez similaire, et on va voir qui c'est qui va prendre l'ascendant, qui va prendre le jeu à son compte, et qui va rêver véritablement.
Vous me faites une transition parfaite, mais pour justement parler de Grenoble-Monaco et le premier point pris par les Grenoblois en Ligue 1 contre des Monégasques totalement apathiques, des Monégasques catastrophiques. Alors si moi j'avais un pronostic à faire pour le match contre Auxerre, je vous mets direct, surtout que ça sera à la Baie des Champs, je mets direct les Auxerrois vainqueurs pour ce entre guillemets choc. 3e contre 4e de la prochaine journée. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que on a vu encore ce soir les limites et les carences de Monaco. Monaco ne mérite pas vraiment de gagner contre Boulogne. Il gagne sur le score de 3-1 grâce à deux coups francs de Néné il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines, pardon. Il y a la semaine dernière, ils font un match catastrophique à Bordeaux où ils ne se créent pas une occasion hormis un corner direct, si c'est pour dire. Ce soir, je sais pas si... ils ont fait combien, 2 ou 3 frappes cadrées dans le match. Enfin, c'est totalement catastrophique contre une équipe grenobloise qui m'a paru assez intéressante. Et comme on ne pouvait entendre son président et les joueurs dans les médias, ils ont l'air d'avoir encore envie, à l'image de Bazdarevic. Ils sont pas totalement abattus. Et ça fait plaisir à voir, parce que même si on sait que c'est même pour moi impossible de revenir pour eux, je trouve qu'ils jouent le jeu et ils jouent le jeu dignement, comme l'a dit Bazdarevic au micro de la radio RTL en fin de rencontre. Je trouve ça plutôt digne de leur part, et ce résultat du côté monégasque empêche pour une deuxième fois de prendre la deuxième place du classement. C'est pour ça que je me dis que les joueurs de Monaco n'ont pas du tout la trempe pour s'emparer d'une deuxième place, d'emparer une vraie place qui pourrait être intéressante. Ils ont pas les moyens de viser pour moi plus haut que la 5e voire 6e place, et c'est pas cette année que ça va encore changer, puisque l'équipe de Monaco a vraiment d'énormes carences. On ne sait jamais en fait situer les carences de Monaco. Un match ça sera la défense, un autre match ça sera l'attaque. Pour moi, Monaco a son plus gros problème, c'est un problème de
stabilité.
De stabilité et de motivation, se motiver pour jouer contre des petits clubs et des choses comme ça. Quand on voit contre Marseille, ils peuvent faire une super première mi-temps, parce que contre Marseille, la deuxième mi-temps avait été transparente pour les joueurs de Monaco. Bordeaux, on avait vu que ça pouvait être un gros match, mais ils étaient passés totalement à côté. Donc c'est vrai que c'est vraiment la stabilité et la continuité qui manquent dans les résultats monégasques. Ça ne date pas de cette saison, et c'est pas encore Guy Lacombe qui va réduire ça, malheureusement. Alors que c'est bien dommage, parce qu'effectivement, on en parle souvent, il y a une équipe quand même avec du potentiel, mais des joueurs comme Gudjonsen encore, qui a fait un match totalement transparent, il est sorti à la mi-temps. C'est vraiment dommageable, parce que pour une fois qu'on avait pratiquement tous les postes de bien remplis, à part peut-être le poste d'arrière latéral droit, parce que pour moi Lolo est pas un titulaire indiscutable, mais bon, ça pour moi il y a pratiquement tous les postes d'occupés, et on n'arrive pas à faire quelque chose avec une équipe comme ça. Alors je sais pas si c'est l'ambiance à Monaco, il doit y avoir tout un tas de choses, un espèce de climat qui fait que les résultats ne sont pas possibles dans ce club. Côté grenoblois, comme nous fait remarquer Aïkant sur le chat, le prochain match des grenoblois, c'est Lyon. Donc son entre guillemets réveil va être très très compliqué après une presse point pris face à Monaco. Mais bon, comme bon, je sais bien que ça a pas du tout la même trempe qu'un PSGOM, mais comme le disait tout à l'heure Adrien pour PSGOM, ces matchs comme ça, un peu derby, même si je mesure mes mots, c'est toujours un peu spécial. Donc pourquoi pas si les Grenoblois pouvaient faire quelque chose contre les Lyonnais, mais ça risque d'être très dur quand même. En tout cas, je suis content pour Bazdarevic qui ait mis un point. et qui a pris son premier point en Ligue 1 parce qu'il le mérite vraiment, et puis les joueurs aussi se sont bien battus et c'est totalement totalement mérité. Je pense que même la victoire ce soir aurait été logique pour les Grenoblois, tant les Monégasques ont été inexistants, plus que les Grenoblois ont bien joué, parce que c'était vraiment affligeant. J'ai fini mon monologue sur les Monégasques. On va passer au dernier match de ce soir, qui opposait l'AS Nancy-Lorraine au Vert Stéphanois. Les Stéphanois qui sont réveillés, qui sont imposés 1-0 face aux Nancéens. Un but de Dimitri Payet à la 71e minute. C'est bien que les Stéphanois se relancent un petit peu comme ça, puisqu'ils restaient trois revers d'affilée quand même, dont deux à domicile et celui, le fameux contre Lyon, puis il y avait eu Valenciennes une semaine avant, 2-0. Saint-Étienne n'avait déjà plus qu'un point d'avance sur le premier relégable, donc était très très proche de la zone rouge. C'est bien pour les Stéphanois qui peuvent donc respirer un petit peu. Ils ont été, on va dire entre guillemets, survoltés ce soir, puisqu'ils ont vraiment livré un très bon match de toutes parts. Un bon réaliste de Dimitri Payet, qui n'est pas connu justement pour sa faculté à marquer des buts. Jeannot très bon au gardien. Beaucoup d'arrêts décisifs. Les Stéphanois donc sont 16e et ont 4 points d'avance donc sur Boulogne-sur-Mer, qui est le premier relégable. Ça leur fait de l'air et c'est plutôt bien pour la suite de la compétition, puisque une équipe avec ce genre de joueurs, pour moi, ne mérite pas de se retrouver à une telle place en Ligue 1, quand vous avez Bergessio, vous avez l'autre Argentin au milieu de terrain, je sais plus comment il s'appelle, vous avez Matuidi, vous avez des joueurs comme ça, vous avez Ilan. C'est une équipe qui ne doit se trouver au minimum dans la première partie du classement, et donc c'est bien que les Stéphanois se réveillaient ce soir à Nancy, qui a quand même des grosses difficultés, les Nancéens, à faire deux bons matchs d'affilée. Une fois, ils produisent un jeu assez alléchant, et la deuxième fois, ils retombent totalement dans leur travers. Donc, la continuité et l'irrégularité est aussi cruelle à Nancy. Messieurs, on va clore cette...
Il y a Lens, c'était plutôt Sochaux-Lens, hein.
Comment puis-je oublier le gros match de cette soirée, messieurs?
L'affiche Orange Sport.
L'affiche Orange Sport. Ouais. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un a souffert?
Non, je l'ai entendu seulement. Mais
environ 0,1% de la population française a vu le match.
Non, 0,01% plutôt.
Ronietto, un petit résumé. Lens qui s'est pas si mal débrouillé que ça, qui a, il me semble, ils ont ouvert le score en première mi-temps, c'était, je vais vérifier ça,
oui,
parce que
Sartre à la 38e, c'est ça,
voilà, et donc ils se sont facilités le travail, puisque les 3 points leur suffisent amplement, donc ils n'avaient pas besoin de se ruer à l'attaque, ils ont simplement défendu, ils ont marqué un deuxième but en fin de match, un super but d'ailleurs de Razak Boukhari. Et bon, après ils prennent un but à la fin qui est très anecdotique, puisque c'était sur le coup d'envoi Lensois, l'arbitre a sifflé la fin du match, donc Lens qui se redonne de l'air avec 3 points qui arrivent au très bon moment, puisque ça leur permet de rester dans la zone verte puisqu'ils ne sont plus relégables, et voilà, donc petit à petit ils remontent la pente, ça fait 2 matchs qu'ils ne perdent plus, donc tant mieux pour eux. Et on va voir donc la prochaine journée qui sera contre, je vous dis ça de suite, Lens-Nancy, donc au Stade Bollaert.
Et ce sera un bon test pour les Lensois.
Tout à fait, ce sera un bon test pour eux, puisque une équipe plus ou moins de leur niveau, donc s'ils gagnent ce match-là, ce sera très bon pour leur confiance, puisque 3 matchs d'affilée sans défaite, alors que Lens avait 4 ou 5 défaites d'affilée, ça peut être de très bon augure pour la fin du championnat et la suite du championnat.
Très bien, Rognetto. On rappelle donc les résultats ce soir. Monaco et Grenoble se sont séparés sur le score de 0-0. Valenciennes, Montpellier, un partout. Le Mans a perdu sur sa pelouse face à Auxerre 1-0. Lorient s'est imposé 5-0 face à Boulogne. Nancy a perdu sur sa pelouse face à Saint-Étienne 1-0. Nice a défait, enfin le Paris Saint-Germain a été défait sur son terrain par Nice 1-0. Et Lens s'est donc imposé 2-1 sur le terrain de Sochaux en fin de soirée.
On n'en a pas parlé.
Oui.
On n'a pas parlé de Nancy Saint-Étienne.
Tu te fiches de moi là. Tu te fiches de moi, honnêtement.
Ah, excuse-moi.
Le mec qui suit, c'est parfaitement l'émission, quoi. Qui est même pas en train de jouer à Football Manager, quoi.
Pardon.
Il se fout de moi.
Allez, rendors-toi, Roméo. Ah,
exactement.
Bien non, mais c'est de ma faute, Arnaud,
On est discipline.
Et insolent.
On a acheté au bas
13 buts inscrits ce soir en 7 matchs de Ligue 1, alors que championnat anglais 23 buts inscrits en 5 matchs. Si ça peut faire réfléchir. Et heureusement qu'on avait notre Aurélien National et son équipe de Lorient qui en a mis 5, parce que sinon le bilan aurait été catastrophique. Donc une Ligue 1 qui on veut nous faire croire que ça y est, c'est une Ligue 1 digne du renouveau. On va avoir des buts tous les week-ends. Effectivement, il y a encore des progrès à faire. Justement. Oui.
La statistique qui fait trembler les fans de foot, c'est 3 buts à une mi-temps en Ligue 1 ce soir. Donc à la fin de la première mi-temps de tous les matchs, il y avait seulement 3 buts inscrits.
Ah oui, là,
la statistique qui fait vibrer aussi tout le monde, c'est le fait que Boulogne, Le Mans et Grenoble sont relégables. Je pense que c'est ce qu'on attendait tous.
et oui, donc. On parlait d'Angleterre, juste pour vous rappeler les résultats, on en passera peut-être un petit peu plus de temps demain dans le débat after un peu plus spécial Europe demain. 4-1 en faveur de l'équipe d'Arsenal, d'Arsène Wenger, sur le terrain de Wolverhampton. Arshavin et Fabregas ont notamment marqué et Ronald Zubar a marqué.
Contre son camp, s'il vous plaît, évidemment. Pas dans le bon sens.
Blackburn Rovers s'est imposé 3-1 sur son terrain face à Portsmouth. Bolton a perdu sur le terrain de Aston Villa avec notamment un but.
Elmander. Et Elmander qui a marqué.
Et un but de Elmander en faveur des Bolton Wanderers. Les Tottenham Hotspurs ont gagné 2-0 face à Sunderland, l'ancienne équipe de Djibril Cissé. Et Burnley et City, Manchester City ont fait nul 3 partout, avec notamment du côté de Manchester City des buts de Kolo Touré, Craig Bellamy et Sean Wright Phillips. En Allemagne maintenant, on va passer en Allemagne avec notre très cher Aurélien qui va nous rappeler les 5 résultats de cet après-midi. Le Bayern jouait, Wolfsburg, excuse-moi aussi, et Stuttgart également. On t'écoute pour tous ces résultats, Aurélien.
Et le Bayern de Munich a fait un match nul à domicile face à Schalke 04, un partout. Hoffenheim a perdu à domicile face à Wolfsburg. Fribourg a fait une très bonne opération en battant dans la lutte pour le maintien Bochum 1-2. Mönchengladbach a réussi à obtenir le nul face au VfB Stuttgart. Mayence a gagné 1-0 face à Nuremberg et fait aussi une belle opération dans la course au maintien. Et le Bayer Leverkusen de Dizzy continue sa belle opération et sa course en tête en écrasant 4-0 l'Eintracht Frankfurt. Moi, je voulais revenir spécialement sur Stuttgart, sur la semaine européenne et sur ce qu'on a fait en championnat. Alors, semaine européenne, on arrive à obtenir un nul miraculeux face à Séville. J'ai pas vu le match, j'ai vu un gros résumé. Mais à ce que j'ai pu voir déjà, la compo alignée à la base, incompréhensible, à croire qu'on jouait à 6 joueurs offensifs, même pas un récupérateur, Hitzfelder qui joue milieu gauche, enfin incompréhensible. D'ailleurs, on a commencé à bien jouer quand Hülsberger est sorti et qu'il a fait rentrer Schieber et du coup on est vraiment passé en 4-4-2. Là c'était enfin, on avait une logique et tout. Donc après Kuzmanovic jouait vraiment à son poste à gauche et il a pu marquer son but d'ailleurs qui est splendide je trouve.
Et puis on a aussi profité de la défense des Scudé. Enfin bref, ça n'a pas été un résultat. On reste dans la Ligue des Champions, mais c'est pas très rassurant. Et ce week-end, on se dit, allez, on va faire confiance à Babel. Il avait besoin de temps pour construire et tout. On va gagner face à une faible équipe de Mönchengladbach. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On fait encore un mauvais résultat. En plus, pire des humiliations, même si je les aime bien, on se fait dépasser par Fribourg, qui est notre concurrent du Baden-Württemberg. Il passe devant nous. On est à un point du premier relégable. On peut être 15e, les premiers non relégables si Cologne gagne demain. On est déjà à 12 points de la deuxième place. Je crois qu'on avait des ambitions hautes cette année. Je crois qu'on va les abandonner. Et puis, pour finir, ouais, je voulais dire un mot sur le Bayer Leverkusen de Dizzy, qui, franchement, fait une très belle saison. Et moi, je les vois bien aller en haut, surtout que entre la deuxième et la cinquième place, ça se neutralise, donc ça se tient en peu de points et tout, donc je vois bien le Leverkusen continuer ainsi et créer la sensation en Bundesliga, même si l'an dernier on a vu que Hambourg avait aussi bien commencé, Hoffenheim avait bien commencé et après était tombé, donc
Leverkusen avait bien commencé la dernière aussi.
Ouais, c'est vrai.
Pour finir par chuter dans les profondeurs du classement. Mais une petite prononciation. On dit FAO, le VFB, je te dis.
Ouais, je sais. Je me suis trompé, j'étais okay, dans l'enthousiasme.
On est très attention. Là, c'est même, ça devient même une émission spéciale prononciation. Là, j'ai Auxerre, Bruxelles, on dit bien Bruxelles et pas Bruxelles, et donc le FAO.
Oui, tout à fait.
Très bien, merci messieurs. Le programme des matchs de demain en Allemagne, s'il te plaît, très cher Aurélien, si tu as ça sous la main.
Oui, attends 5 secondes, je te trouve ça.
Allez, il y a trois matchs demain.
Il y a Hanovre joue à domicile Hambourg, le Hertha Berlin reçoit Cologne et le Werder de Brême dans le choc de cette 12e journée de Bundesliga reçoit le Borussia Dortmund. Voilà. Bon, Hambourg et le Werder qui ont une bonne opération à faire dans le haut du classement pour prendre la seconde place et puis les autres équipes qui doivent marquer des points pour rester dans la course au maintien, surtout que Fribourg a fait une bonne opération en battant Borum, donc il faut qu'ils suivent le rythme et donc ils doivent gagner pour rester dans la course au maintien et pas lâcher 2 points.
Un petit mot pour finir sur le Bayern et qui arrache le match nul donc par Van Buyten. Est-ce que tu as suivi ce match-là ou Romeo?
Non, mais moi j'ai vu un résumé si tu veux.
Ah ben oui, bah si, un petit commentaire justement sur ce là, ça s'est un peu déroulé comment?
Et bah, de ce que j'ai vu du résumé de Bordeaux, de Bayern de Munich Bordeaux mardi, on a vu totalement une autre équipe du Bayern de Munich avec qui avait en tout cas plus d'envie. Ils n'ont pas eu de chance dans leurs occasions, ils avaient plus d'envie. Encore une fois, c'est Van Buyten qui les sauve en marquant le premier. Et puis après, Schalke 04 a beaucoup de chance avec Matip qui marque à la 43e. Mais dans l'ensemble du match, le Bayern aurait pu l'emporter. Franchement, Van Hal peut être satisfait de ses joueurs ce soir, je crois, parce qu'ils ont retrouvé en tout cas un état d'esprit qui leur manquait. Et franchement, c'est un peu... Moi, je trouve, du résumé que j'ai vu, donc c'est pas non plus très objectif. C'est illogique qu'ils partent pas avec les 3 points et qu'ils arrivent à prendre qu'un point. Mais je pense que ce soir, Van Hal sauve sa place. Et peut-être qu'on va voir un Bayern de Munich, un nouveau Bayern de Munich dans les semaines à venir. Mais on va voir.
Très bien. On passe maintenant à l'Italie. L'Italie avec les résultats en version originale, comme le voulait notre Rony International. Il m'a harcelé pour que je fasse ça.
Alors, non, voilà. N'en fais pas trop non plus. Voilà.
Donc, il est risultati nel primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A.
Il est tous en train de nous insulter là.
Oui, exactement. C'est même pas ce qu'il... Exactement. 0-0 tra Napoli et Catania. Et ce soir, la Juve di Ciro Ferrara vinci 5-2 contro l'Atalanta. I reti di Trezeguet, di doppietà di Camoranesi, un gol di Felipe Melo e un gol di Diego per la Juve. 5-2 ce soir pour la Juventus de Turin sur le terrain de l'Atalanta Bergame. Ça fait quand même un score assez lourd. J'ai réussi à suivre le match. C'est un très bon résultat pour les joueurs de la Juve face à une équipe qui commençait à revenir. Et en revanche, Naples, donc on l'a dit en fin d'après-midi, faisait match nul 0-0 face à Catania. Naples qui, on a cru par un moment, pourrait se relancer dans le championnat. Malheureusement, c'est pas le cas. La Juve qui se rapproche donc de l'Inter considérablement et ça permet en tout cas de relancer entre guillemets le championnat puisque demain l'Inter joue contre l'AS Roma à 21h, enfin à 20h45 et si la Roma pouvait arriver à faire un bon résultat contre l'Inter, on n'aurait plus qu'une distance de 4 points entre Juventini et Inter ici, ce qui permettrait quand même un nouveau suspense entre guillemets dans la Serie A, un suspense qui a été quand même assez bien tué avec cette différence de 7 points la semaine dernière qui a été infligée par par l'Inter de Milan à ses concurrents. On finit par l'Espagne évidemment avec toi Ronieto, le Barça et le Real jouaient ce soir.
Tout à fait. Et les deux ont gagné, donc le Barça pour commencer, qui joue à 20h contre Mallorca, a gagné 4-2. Donc une ouverture du score de Petalito, alias Pedro, donc qui ferait vraiment un super bon début de championnat, avec notamment un début en championnat, en Ligue des Champions, donc qui ouvre le score sur une superbe passe de d'Ibrahimovic, qui le très célèbre geste où il fait passer la balle derrière son pied dans la profondeur pour Pedro qui un contre un gagne son duel. Comment ?
Superbe passe.
Super, ouais. Donc suite à cette ouverture du score, Núñez égalise pour Mallorca, donc sur une tête plongeante via un corner. Donc il faut dire qu'il était assez seul, donc mauvais marquage de la part du Barça. À 15 minutes de la fin de la première mi-temps, Pedrito, toujours Pedro, marque un but après plusieurs coups de billard, avec notamment 3-4 arrêts successifs du gardien de Mallorca sur sa ligne. Et le premier but de Thierry Henry de sa saison, donc premier but de Henry de la saison, sur une autre tête plongeante avec une passe décisive encore une fois de Pedrito. Donc premier but du français en Espagne cette saison et ça peut le lancer puisque il a pas beaucoup joué et je suis heureux de voir marquer ce soir. Donc 3-1 à la mi-temps pour le Barça qui se fait excuser en quelque sorte de son match nul au Rubin Kazan et de ses débuts assez mitigés en Ligue des Champions. Au retour de la pelouse, à 3 minutes de la fin plutôt, Messi écope de penalty suite à une faute tout à fait justifiée sur Ibrahimovic. Donc il le transforme sans problème et donc dans le temps additionnel, Keita, le joueur de Mallorca, marque un but, mauvais positionnement de Valdés à noter, plutôt mal placé et donc Keita qui trompe sans problème le portier espagnol. Donc victoire 4-2 pour le Barça qui maintient son écart de 2 points devant le Real puisque le Real a aussi gagné dans le derby madrilène contre l'Atlético Madrid. Donc c'était ça se jouait à l'Atlético Madrid, donc Vicente Calderón et donc le Real qui a très vite pris le pas sur le match avec le but de Kaká dès la 5e minute, suivi d'un but de Marcelo à la 25e. Higuain va même porter le score à 3-1 à 25 minutes de la fin, donc on croit que le Real a la victoire en poche, mais non. Enfin, si, mais ils s'en fait peur puisque Diego Forlán et Kun Agüero en 2 minutes ont marqué 2 buts. Et donc ça a fait que l'Atlético Madrid est revenu à 3-2. Il restait plus que 10 minutes à jouer, donc le Real a suggéré cette avance d'un but, mais c'est assez inquiétant de les voir se prendre 2 buts en 2 minutes alors qu'ils dominaient ce match. Et surtout l'Atlético Madrid en ce moment c'est assez inoffensif, même s'ils ont fait un plutôt bon résultat contre Chelsea cette semaine en Ligue des Champions 2-2. Donc voilà, le Real et le Barça qui gagnent et qui font toujours course en tête dans ce championnat espagnol, on peut donner les matchs qui auront lieu aujourd'hui. En Espagne, donc pas beaucoup de chocs, hormis le Sevilla-Villarreal à 21h. Et une belle affiche aussi pour ceux qui aiment le foot espagnol, Valence-Saragosse. Donc après les matchs Almeria, Osasuna, Gijón, Espanyol, Santander, Athletic Bilbao, Valladolid, Jerez, donc voilà les autres affiches.
Le fameux Jerez.
Jerez, donc le premier Jerez en effet. Donc voilà, donc on peut retenir les victoires des leaders qui continuent à faire course en tête en attendant le Classico qui ne va pas tarder et qui pourra vraiment soit permettre au Real de passer devant le Barça, soit au Barça de creuser son avance face au Real. Et donc ça va être super intéressant, surtout qu'il me semble que Cristiano Ronaldo sera de retour pour ce match et ça va être un match au sommet. Et...
un match commenté sur Génération Soccer.
Exact. Avec beaucoup de Catalans et beaucoup de Madrilènes au micro.
Et même des Sévillans. Comment on dit les supporters du Bétis?
Les Bético.
Les Bético.
Ouais, voilà. Et donc je me suis trompé, le Barça a un seul point d'avance sur le Real. Non, et non pas deux.
Ah, d'accord. Oui, c'est, donc la Liga est très serrée, même si le Real tourne, entre guillemets, encore, et encore en rodage, en période de rodage.
Ouais, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup Rognetto pour cette page déjà conséquente. Espagnol, on va pouvoir attaquer la partie que vous nous enviez tous, la partie quiz. Et monsieur, messieurs, je vous demande d'éteindre vos ordinateurs. Enfin, éteindre vos ordinateurs, je me comprends. Pas de triche. Mais j'attends juste le superbe jingle de Mr. Dan pour lancer ce quiz.
Génération Soccer. Paris Libre Spécial.
Et je vous promets qu'on n'a payé personne, on n'a payé pas de femme pour faire ce jingle. C'est Dan qui s'occupe de ça.
Ça les a juste violés.
Voilà, c'est Roméo, honnêtement.
On a passé les minuits, c'est bon.
Voilà, t'as de la chance. C'est de sa cargaison et de sa fourniture personnelle. Bref, on va pouvoir passer au quiz. Aurélien nous a préparé un énorme quiz, il paraît, ce soir. Je vous jure que je ne suis pas...
C'est énorme que Loulou Nicolas.
Et même si je supporte et que j'aime beaucoup le club de Berlusconi, je vous jure que je n'ai pas truqué le jeu. Je ne suis pas de mèche avec le rédacteur du quiz à qui je laisse la parole. Aurélien, c'est à toi.
Merci Arnaud. Je ne sais pas s'il est énorme comme tu as dit.
Ah, mais je vais tâcher d'être à la hauteur.
On va voir ça. Alors, je vais rappeler les règles du jeu, puisque Arnaud, ça fait un moment qu'il n'est pas venu à la radio, donc il ne doit pas les connaître. Et puis, en plus, j'ai un peu modifié ce soir.
C'est bon.
Donc,
pas trop fou bas comme ça.
Mais c'est un plaisir d'être avec toi, Arnaud, ce soir.
Oh, que des loges. Attention, qu'est-ce que ça va être ton quiz? Je m'attends au pire.
Fais gaffe aux chevilles, hein.
Effectivement.
Alors, les règles sont pour être simples. Je vais former... on va faire en solo. Alors, vous allez jouer en solo. Et puis, ça va être le premier à 5 points. Alors, je vais vous poser des questions à 1 point. Et chaque fois qu'on aura passé votre tour, que vous aurez répondu tous à une question, on va poser des questions à 3 points. Et voilà. Et le premier à 5 points gagne le quiz. Ça va? Vous avez compris?
On a,
propose deux équipes de deux,
on a une question. Comment chacun,
c'est ça.
Très cher Aurélien. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une question et tout le monde répond.
Non, c'est chacun son tour. À part, j'ai oublié de le préciser. Voilà, j'avais encore oublié. Chaque fois, j'oublie. À part pour la question à 3 points, là où c'est tous chacun de votre tour. C'est tout le monde. C'est le premier qui répond qui a la bonne réponse. C'est un jeu de rapidité.
Le plus rapide. Juste les questions à 3 points.
Voilà. Les questions à 1 point, c'est chacun votre tour. Je dirais Roméo, à toi la question. Arnaud, à toi la question, etc.
Ok, très bien.
Et c'est en solo, Roméo. Aurélien. Tu me demandes si on fait des équipes, c'est en solo.
Pas d'équipe.
Oui.
Si, en non. Équipe, moi je propose des équipes. 2 versus 2.
Mais deux équipes de 2.
Ah, moi, je sais pas, ça bon, dépend des autres.
Ah bah, faut que ça arrange le maître du quiz, hein, si le monsieur quiz a préparé. C'est comme tu veux. Est-ce que ça t'arrange si on fait des équipes ou pas?
Oui, ça peut m'arranger. Je tire ça. Alors, suspense.
Alors,
je fais des petits pop. 5 secondes.
Pas voilà, Roméo, s'il vous plaît, pas Roméo. Pour passer le temps, Roméo, sur nous, une Arnaud, de tes petites blagues.
Arnaud, Arnaud, s'il avec... te plaît. Là. Roméo, Arnaud, Roméo, première équipe.
Oh, oh non,
et donc,
yes, 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 yes.
Du coup,
yes.
Du coup Adrien Rognetto, évidemment, puisqu'il y a plus
de... J'attendais pas, ça, voilà. Le Adrien Rognetto.
Voilà, donc maintenant qu'on a... voilà qu'on a les
équipes. Assez imprévisible.
Ça va être, c'est les mêmes règles du jeu, sauf que je fais équipe par équipe, et comme c'est par équipe, et ben c'est la première équipe qui arrive à 10. Ça vous va?
On a juste dernier, on a combien de temps, de réponse?
15 minutes.
Le temps de taper, il faut aller vite.
Il faut aller vite.
On est comme Hugo. Attends,
parce qu'après ça devient.
On sait où on sait pas. De toute manière, on sait où on sait pas, donc ça doit refuser.
Sois strict, Aurélien. Sois strict. Et sois intransigeant.
Allez, une minute.
Sois républicain. Vous avez.
Voilà.
Oh,
alors, est-ce que vous êtes prêts?
Secondes,
on commence?
Très bien.
1, 2, 3. Arnaud Roméo, première question. Ce soir, Auxerre est provisoirement 3ème de Ligue 1. Depuis quand Auxerre n'a-t-il pas fini 3ème de Ligue 1 sur une saison entière? Je veux l'année de la saison où ils ont fini la dernière fois 3ème.
2002.
Oui, c'est bon. Ça, un point pour vous.
Bravo!
Bien joué.
Adrien Rognier.
Au fait, juste au rien, j'ai une petite question. Si par exemple nous, on n'arrive pas à répondre à la question, est-ce que l'autre équipe peut
Ah oui, on peut lui piquer. Oh, ça c'est bon ça.
Non.
Oh merde.
C'est
le boss du quiz, on ne discute pas les ordres du boss du quiz.
Il était voilà. Chaud.
Alors deuxième question. Première question pour vous, Adrien Rognier. Quel est le club qui a le plus d'années de longévité en Ligue 1?
Sochaux.
Oh, oh là. Oui.
C'est bon.
Oh là là, alors, il y a du niveau.
Roméo, Arnaud, à vous. C'est je vous. Veux un club qui n'a passé qu'une saison en Ligue 1, autre que Boulogne-sur-Mer.
Chut, attends. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Guignon, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements.
Oui, c'est bon. C'est bon.
95.
Bravo, bravo.
Magnifique. Bon, je vais avoir les larmes qui vont me couler au visage. Depuis le temps qu'on se fout de la gueule de Guignon, pour une fois, ils vont faire quelque chose dans la vie. Magnifique.
Adrien Rognetto, bon. Cette année, c'est facile aussi. Quelle est la plus faible défense de Ligue 1?
Grenoble.
Grenoble.
C'est bon. Deux points pour vous.
Mais, oh. C'est quoi ces questions?
Arnaud Roméo.
Tais-toi, Soufi.
Face à quelle équipe? Face à quelle équipe Cyril Roll détient-il son record d'exclusion?
Ou alors, attends.
Ça veut dire que je veux... c'est face à quelle équipe qui a reçu le plus de cartons rouges dans toute sa carrière?
C'est aussi, non? C'est mensuration complète.
Ah, mais tais-toi.
Le nom de son premier fils.
Contre quelle équipe? Attends.
Moi, je dirais Monaco, je sais pas.
Non, il a jamais été exclusé.
Si vous suivez l'actualité, on en a parlé cette semaine. Ah, et c'est pas en Ligue des Champions, c'est en Ligue 1.
Pas de favoritisme.
Bah, je sais pas, bon, alors à ce compte-là, je vais dire.
Lyon. Ah non, vite.
Bordeaux.
Lyon ou Bordeaux?
Non, Bordeaux.
Bordeaux.
Bah, c'est faux. C'était Lyon.
Eh merde.
Adrien Rognetto, vous pouvez prendre la main avant la question à 3 points. Qui était surnommé dans son temps l'araignée noire?
Oh là là, mais c'est trop simple.
Tais-toi.
Oh là là, on prend la question Adrien. Après. On prend la
Adrien.
Question après.
Je sais pas du tout.
On prend la Bernard question
Lama,
après.
La main.
Bon, d'accord. C'est Lev Yashin.
Non.
C'est Lev Yashin.
Et non, c'était Jean-Luc Ettori.
J'en savais rien du tout.
Mais c'est Lev Yashin.
Donc.
Non,
c'est Ettori. Pour on va passer à la question à 3 points. Et je vous rappelle que c'est la première équipe qui dit la bonne réponse qui gagne les 3 points. Est-ce que vous êtes prêts?
Attends, je me tire là. Je prépare la page internet, c'est bon, vas-y.
Vous êtes prêts? Alors, je pose la question. Lorient a gagné la Coupe de France en 2002. Face à qui était-ce?
Strasbourg.
Vite.
Bordeaux.
Non, c'est ça, oui.
Non.
Oh putain, hors sujet qu'on
fait. Vite.
C'est pas Bordeaux?
Non.
Nantes.
Non. Nantes. Bon, bah, aucune des Nantes, deux équipes n'ayant donné la bonne
attendez,
réponse.
Non, attendez, j'en ai un.
Ouais, trop tard.
Ça fait en Wikipédia après.
Mais non. Alors,
non, bon,
monsieur Aurélien, j'ai une réclamation. Lev Yashin, je te passe. Attends. Non. Je suis pas d'accord. Je te passe la page Wikipédia. T'es d'accord? Lev Yashin, surnom. Oui, regarde dans la page. Surnom, l'araignée noire. Donc, tu nous accordes le point sur le champ. Voilà, c'est tout.
On a faux, on fout.
Et d'où je vous accorde le point, puisque c'était pas à vous que je posais la question?
Non, nous, parce que t'as dit qu'on pouvait.
Non, il a dit qu'on pouvait pas. Il a dit qu'on pouvait pas.
J'ai dit non. Écoute, j'ai dit non, donc. Je reconnais, il y a une erreur de ma part, même si c'est vrai qu'on appelait aussi Ettore la Reine Noire, et moi je me souvenais pas que la Viachine avait ce surnom-là, mais il n'y a pas de point. Et donc là, pour la question à 3 points, vu qu'aucune équipe a su répondre, on va passer aux questions à 1 point pendant 2 tours encore. Et donc, Roméo, calme-toi.
Ah oui, c'était quoi
et
la
puis, ça va être à toi. Roméo Arnaud, je vous demande, combien de fois Claude Puel a-t-il été nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des classements UNFP?
Oh, facile.
Moi, je dirais...
Deux fois, je dirais.
Non.
Oui, c'est bon.
Nommé, c'est
Arnaud, pas... c'est bon.
Nommé ou élu?
Nommé, élu.
D'accord.
Et je viens de dire à Arnaud que c'était bon, donc c'est bon. C'était deux fois la réponse. Adrien Ronietto. En 2000, lors des trophées UNFP, une équipe a raflé toutes les récompenses de Ligue 1. C'était quelle équipe?
En 2000.
Non, c'était en 2001.
C'est assez simple, non. La saison 1999-2000.
Lens?
Non. C'était Monaco.
Et oui, messieurs, c'est Monaco qui est champion en 2000.
Putain. Voilà.
L'épopée des Trezeguet et Gallardo.
Roméo et Arnaud prennent la tête. Arnaud, Roméo, d'ailleurs, la question à vous. Quel joueur colombien a marqué l'histoire de Montpellier et de la Ligue 1 par sa coupe de cheveux?
Répète la question, s'il te plaît.
Quel joueur colombien a marqué l'histoire de Montpellier et plus généralement de la Ligue 1 de par sa coupe de cheveux? Enfin, à l'époque, la Division 1.
Oh là là.
Oh putain.
Trop simple.
C'est pour nous, ça.
Si c'est.
Oui, c'est pour Roméo et Arnaud, je l'ai dit.
Putain, le Colombien, là.
Il épaisse.
Vite.
Non,
Montpellier.
Ah, c'est trop tard, là. Trop tard.
Non, mais je sais pas. Honnêtement, je sais
trop
pas.
Trop tard, laisse tomber.
Valderrama.
Voilà. La réponse était... Voilà, Valderrama.
Oui, Valderrama. Ah oui, ouais. Effectivement. Non, bah, effectivement, je me suis totalement trompé.
Voilà. Donc, vous restez à 3 points et Adrien Ronietto peuvent recoller au score. En 2003... Ronaldinho, Adrien Ronito, vous êtes prêts? En 2003, Ronaldinho se voit décerner le trophée du plus beau but de Ligue 1.
Guingamp.
Face à quelle équipe? Bravo, un point pour vous.
Bien joué,
Parisien, quoi.
On va pouvoir passer à la question à 3 points. Et celle-là, elle va être un peu spéciale. Ça va être, je veux que les deux équipes me disent, ça va être chaque équipe, chacune à son tour. Et il faut me dire, les 11 joueurs type de l'équipe type de Ligue 1 2005, je veux dire. Donc la première équipe qui me dit un faux nom
rejet dans le passé
perd, et
les 11
et l'autre équipe a le point, sachant qu'il faut au moins que vous me disiez à la base au moins une réponse bonne pour encaisser, pour avoir le point. Vous avez compris?
Chris.
OK.
Donc je veux les 11 joueurs.
Oui, c'est qui commence? C'est quelle équipe qui commence à
2005.
Dire un nom?
Et bien, vu que vous avez tous les deux 3 points, je vais faire au tirage rapidement. Adrien Ronietto.
Chris.
Donnez-moi un joueur de l'équipe type de Ligue 1 2005.
Chris, non.
Si t'es sûr, dis-le, vas-y.
Bah ouais, je pense. Chris.
C'est bon. Arnaud, okay. Roméo.
Roméo, doucement, Roméo. Ah non, c'est à nous, Adrien.
Ah, excuse-moi, pardon.
Attends, Roméo, on se concerte.
Oui.
Ouais, je pense que je suis désolé Adrien, mais on va te le piquer.
Ouais, non, mais pardon.
Ça me fait mal quand même. Honnêtement, vu qu'on est sport, on dit le gardien.
Non, on lui pique.
Oh, bon, désolé.
Quel bâtard.
Juninho.
Quel enculé.
Donc vous dites
Juninho.
C'est bon. C'est salaud, mais c'est bon.
Moi, j'ai.
Adrien Ronietto. Donc un troisième.
Adrien, il y aurait pas eu Paoletta?
Je dirais coupé pour être sûr, parce que Lyon ils ont tout raflé, donc je dirais coupé.
Ouais, vas-y, dis
coupé. Coupé, c'est bon.
Ah, bien.
Arnaud, Roméo.
En 2005?
Oui.
Paoletta, je le dirais bien aussi, hein, franchement.
Non,
mais,
non.
C'est limite, ouais.
Ah, vas-y, nous piquez pas non plus.
Oh. Vas-y, dites-le.
Non, moi je dirais pas Paoletta.
Dites Pancrate.
Allez.
Non.
Je pense que, ouais, Govou, je pense que c'est bon.
Eh bien, Govou, c'est faux. Donc, Adrien Eronetto marque 3 points et passe à 6 points. Et pour vous dire, les joueurs qui manquaient,
Lyon, bah, il faut qu'il y ait bon.
Non.
J'y vais. Abidal, Bonaventure, Essien, Malouda, Wiltord et Frey.
Malouda, évidemment.
Oui, ah, mais oui, Malouda, mais oui, Malouda, Malouda. Oui.
On peut la redire vite fait, voilà. S'il
te plaît. Okay.
Alors, dans les cages, c'était coupé.
En fait, il y avait que des Lyonnais, quoi. C'est...
Bah oui.
Sauf quoi, Chris, Bay, Juninho, Frey. En fait, j'ai supprimé chaque fois que vous me disiez une bonne réponse, donc là, j'ai plus tout. Juninho, Chris, Frey. En fait, je l'ai plus exactement, donc,
voilà. On s'en fout, c'est pas
grave. Bonaventure Kahlo, ouais. Voilà. Et en tout cas, donc, c'est Adrien et Ronetto qui marquent le point et qui prennent la tête. Et ils ont 6 points. Et on va repasser aux questions à points, chacun à son tour. Et donc, honneur aux ceux qui ont le plus de points. Adrien Ronetto, c'est à vous de reprendre la partie. Donc, je vais vous donner votre question. En 2008, lors de la cérémonie des Oscars UNFP, un grand joueur de l'histoire du football français se voit attribuer un trophée spécial. De qui s'agit-il? En 2008.
Oh là là.
Je dirais Zizou, non? C'est pas ça. Adrien, tu dirais quoi, toi?
Un grand joueur.
Comment ça? Moi, j'irais Zizou après.
Ouais. Non. Je crois que c'était un an avant. Je crois que c'était en 2007.
Ah oui, c'est un truc comme ça, 2007.
Une réponse?
Attends, ah oui, peut-être pour les 10 ans de la victoire de l'équipe de France.
Bah vas-y, dis Zizou, allez.
Non, pour, non.
Et ce n'est,
je pense pas.
Un autre nom, vite.
Franchement, moi, je dirais France 98.
Tu peux dire la bonne réponse?
Et bah, de toute façon, c'était ni un joueur de France 98, ni un joueur de Zidane, c'était juste Fontaine, la bonne réponse.
Voilà!
J'entends jamais ces cérémonies de merde, là. Putain.
Arnaud Roméo, à vous.
Arnaud, tu vois, j'avais raison.
Chute, Roméo.
Quels sont les deux frères suédois ayant évolué en Ligue 1 dans les années 2000?
Putain.
Les frères Romnal?
Vite.
Non. Attends.
Suédois. Les frères Laudrup?
Les deux frères Farnerud.
Ah, c'est bon, oui. Vous marquez un point.
À Monaco et à Strasbourg.
Voilà.
Adrien Ronietto. Quel entraîneur vice-champion du monde dans les années 2000 a joué à Marseille?
Quel vice-champion du monde? J'ai pas compris.
Oui, entraîneur vice-champion du monde dans les années 2000 a joué à Marseille.
Vice-champion.
Avant d'être
Il y a eu 2002, c'était l'Allemagne. 2006. Je suis pas un Allemand, mais je vois pas qui c'est.
Tu vois pas Marseille.
Non mais c'est bon là.
Non, j'ai pas aucune idée.
Donc non.
Aucune
idée. C'est, par contre c'était bien allemand, c'était Rudi Völler.
Putain.
Voilà. Adrien, Arnaud Roméo, vous pouvez un peu recoller. Dans quel club a été formé Jean-Claude Darcheville?
Putain, j'hallucine.
Jean-Claude Darcheville, alors là.
OFC Attends. Jean-Claude Darcheville.
Trop simple. Vas-y, vite, parce que c'est trop simple de trouver. Vas-y, allez, cherche.
C'est quoi? Et c'est faux. C'était le Stade Rennais.
Honnêtement,
La fin de corps.
Adrien Ronietto, à vous. Quel buteur tchèque de la finale 2004 de la Ligue des Champions a été champion de France avec Lens en 99?
Porto. C'était qui avait marqué déjà? Porto, Monaco.
2005, excusez-moi. Finale 2005. Excusez-moi.
Attends, tu peux répéter ce
buteur tchèque. Alors, je veux un buteur de la finale de la Ligue des Champions 2005 qui a été champion de France avec Lens. Il est tchèque en 99.
99.
Vite.
C'est Smisser, je sais pas.
Oui, c'est bon.
Smisser.
Smisser.
Bien joué.
Ouais.
Ok.
3-3, c'est 3-3 Liverpool-Monaco.
On va passer à la question.
Tout à fait.
On va passer à la question.
En fait, j'avais Chabi, j'avais Diarra, mais j'avais pas lui. Ouais. Ok.
On va passer à la question à 3 points. Spéciale Coupe de la Ligue. Alors, c'est l'équipe qui me répond bien. Comment je pourrais dire ça? Oui. Si Ronietto et Adrien répondent bien à la
désormais
question.
Désormais intouchable.
Voilà, vous gagnez le quiz. Donc attention, préparez-vous à la question que je vais poser et qui est assez dure, je dois le remarquer. En quelle année ont été créés les trophées UNFP du football? C'est facile.
95.
En quelle année ils ont été créés alors là?
98.
Ouais, non, ça doit être à la,
je dirais 88.
Arnaud Roméo, pas
des années 80, ouais, c'est ça. Mais je sais pas quand.
88, moi je dirais.
Fin des années 80.
Ça sent Wikipédia, ça.
Non, non, bah, je pense Roméo, que c'est l'année de naissance de mon frère, je dirais ça comme
94.
Non, c'est Roméo l'a dit, c'est 88.
Oh putain. Oh, vas-y. En plus, il fait van, il est surpris alors qu'il vient de chercher, tu sais.
Bah oui, mais exactement, c'est ce
oh putain, le gars.
J'avoue, ça sent le wiki. En tout cas, c'est sûr, c'est que je donne le point.
Quiz, si t'as fait Wikipédia.
Ah non, non, bah, mais j'ai pas fait Wikipédia, putain.
Non, je suis
ouais, t'as fait l'équipe, tu penses ça, quoi.
Non, honnêtement. Non.
Donc, on va passer. Ouais, bien sûr. On va passer aux questions. On va repasser aux questions à point vu que personne n'a.
J'ai très bon et. Je tombe Juninho et en plus il cherche sur Wikipédia.
Alors Adrien Rognetto pour un point.
Smithers comme par hasard au buzzer. Smithers. Ah oui c'est ça. 20 secondes après.
Au début je pensais 2004.
Merci.
Bon Adrien Rognetto pour un point. Quel est le meilleur buteur historique des Girondins de Bordeaux?
En plus, je pense que c'est celui qui est le meilleur buteur de toute l'histoire de la Ligue 1. Vas-y. Tu dirais quoi, toi, Adri?
Soit peut-être Papin, soit peut-être Laslande.
Comment?
Peut-être Papin ou peut-être Laslande, je sais rien.
Ah, bah, dis ça, si tu le sens.
Sur ça, bah, dis un des deux.
C'était pas Las. Allez, quel nom?
Vas-y, Adri.
Papin, je sais rien.
Non, Papin. C'était. Alain Giresse. Donc ce n'est pas bon.
Enculé.
Oui. Alors, Roméo ouais. Et Arnaud, vous pouvez prendre la tête.
Oh putain, si on s'est baisé là-dessus.
En 2001-2002, toujours. En 2002, Bordeaux gagne la Coupe de France. Face à qui c'était?
Lorient.
Putain, avec
Lorient, ça j'en suis sûr. Ça c'est Lorient, avec Pauletta qui fait un
ciseau. Je ne réponds plus. Je Lorient, sinon tu vas être accusé de tricherie.
Pauletta fait un ciseau, je crois, et c'est contre Lorient.
Je refuse
oui,
de
oui, c'est tout à fait ça. Vous c'est avez ça, donc 8 points.
Ah.
Voilà. Et donc, nous allons passer, vu que je n'ai plus de questions à un point, puisque je ne pensais pas que le quiz aurait duré si longtemps, nous allons passer à la dernière question pour à 3 points.
Elle est pour nous, celle-là.
Voilà. Donc, l'équipe qui répond bien
gagne
le jeu. Lors de la saison 1995 et pas 95 parce que il y a surtout des Français qui écoutent. 1995-1996. Quelle équipe finit second derrière l'AJ Auxerre? Vite. J'ai pas de Wikipédia là, j'entends des touches de clavier.
Paris. Tu sais ça?
Paris.
Non, pas 96.
Oui, c'est bon.
Ici c'est Paris.
Ah si.
C'est bon Adrien.
C'est Paris.
C'est bon,
oui, Adrien, je t'aime. Ok.
Adrien Rognetto remporte le quiz.
Et voilà. Oui. Bien joué, franchement.
Et Roméo ne fera pas le triplé. Après avoir gagné le quiz de samedi, le quiz de dimanche dernier, il ne fera pas le triplé en gagnant ce soir. Bravo, Adrien et Rognetto. Vous méritez, surtout que sur la dernière question à 3 points, la réponse de Roméo était assez louche, je dois reconnaître. Surtout qu'il nous bah, on y est habitué parce qu'avec les Philippe-Monop, c'est même pas.
Je sais pas.